de la Bretagne, mais de la Grande-Bretagne.
Bon, on n'est pas bien loin.
Enfin, je vais plus précisément vous parler du diagramme du métro londonien.
Diagramme.
Ce qui peut paraître un sujet très bizarre pour, évidemment, une historienne de l'art. Mais ce diagramme, qui est donc absolument connu par tous les Londoniens et tous les touristes qui visitent Londres, est vraiment une icône du design graphique. C'est un objet, enfin ce dessin, si vous voulez, ce plan du métro avec ce diagramme, c'est un objet totalement banal pour la plupart des gens qui circulent dans le tube, hein, pour les Londoniens, pour les visiteurs de cette grande métropole. C'est une image qui est absolument omniprésente dans la ville, à tel point qu'on ne s'en rend même plus compte, en fait, au bout d'un moment, hein, qu'on est totalement tout le temps confronté à ça. Elle fait donc partie du paysage et finalement son existence, même si justement ça peut paraître une image un peu quelconque, l'existence de ce plan, l'existence de ce diagramme est absolument utile. Donc derrière cette banalité apparente de ce réseau de lignes colorées se cache en fait une idée géniale et une histoire qui est assez intéressante à raconter. Et donc, je voudrais vous la raconter aujourd'hui. Comment donc est né le plan du métro londonien? Comment est né ce fameux diagramme? Eh bien, les choses se sont passées en 1931. Hein, c'est la date qu'on retient pour la conception de ce dessin. Le métro de Londres fonctionne à ce moment-là depuis presque 70 ans. Parce qu'il faut savoir que le métro londonien, c'est le métro le plus vieux du monde. Et il a été inauguré en janvier 1863. Hein, donc quand même, en 1931, ça date déjà un peu. Et c'est donc à ce moment-là déjà un réseau de plus en plus complexe de lignes, dans le sens ligne de métro, hein, pas ligne sur le papier, mais enfin aussi sur le papier finalement. Donc de lignes qui se croisent sous le sol de la ville. Et pour s'y retrouver, donc les visiteurs ou les, disons, les voyageurs hein, ont donc besoin d'un plan du métro et on leur en fournit régulièrement des différents plans qui sont donc mis à jour parce que évidemment ce métro il se développe. Hein, donc en 70 ans, il y a de plus en plus de lignes bien sûr. Et donc on doit rajouter toujours des stations et donc on dessine toujours des nouveaux plans. Enfin bref, ces nouveaux petits papiers que chaque voyageur doit avoir dans sa poche pour s'y retrouver. Mais le problème c'est que ces lignes très sinueuses, ces trajectoires en fait de train sinueuses, ne respectent absolument pas la trame de la ville. Et donc, on se trouve finalement avec des graphismes, enfin des graphiques, des diagrammes. On ne peut même pas encore utiliser justement le mot de diagramme. Ce sont des dessins assez fidèles, hein, qui reproduisent donc fidèlement ces lignes sinueuses. Donc, on se retrouve avec ces plans qui finalement ressemblent à un dessin de soupe de vermicelle. De plus en plus dense et chaotique. Hein. Et donc, c'est à ce moment-là que va entrer en scène un personnage dont on a retenu le nom jusqu'à nos jours et qui s'appelle Monsieur Harry Beck. Mais avant qu'il entre en scène, il y a déjà quelques autres personnes éclairées qui vont préparer un peu le terrain. Donc, en ce qui concerne, si vous voulez, en 1931, en ce qui concerne l'interface visuelle du métro londonien au-dessus du sol, c'est-à-dire à l'entrée des stations, ou même dans les stations, dans les rues, hein, il existe déjà des panneaux standardisés, ces fameux panneaux qu'on voit jusqu'à nos jours, donc qui sont en fait une espèce de cercle rouge traversé par une barre bleue sur laquelle est écrit en capital Underground, hein, donc métro. Hein. Alors, ces panneaux sont en fait dessinés par le calligraphe et le typographe Edward Johnston, qui a été approché en 1915-1916 par un homme vraiment éclairé, Frank Peake. Frank Peake occupait une position importante au sein de la compagnie Underground Electric Railway Group, hein, donc c'est en gros aujourd'hui la compagnie du transport londonien. Donc il est entré dans cette compagnie en 1906 et puis il est petit à petit devenu, il avait des positions de plus en plus importantes jusqu'à devenir le directeur adjoint et jusqu'à prendre en charge la communication du groupe. Hein. Et donc, il était, c'est quelqu'un qui était vraiment aussi intéressé par, donc vraiment par la communication visuelle, par le design. Et il était membre de, d'une association qui s'appelait Design and Industries Association. Et il s'intéressait donc aux méthodes du design moderne et à leur possible application dans la vie, disons, quotidienne. Et donc, à partir de 1915, il a justement demandé à ce calligraphe-typographe Edward Johnston de concevoir une police typographique, une fonte en fait, qui serait propre à London Underground, hein, qui serait vraiment utilisée, reconnaissable, qui serait vraiment faite, dessinée pour London Underground. Et donc, Johnston a dessiné une suite de caractères bâtons. Alors, caractère bâton ou ce qu'on appelle aussi écriture linéale, c'est simplement une écriture où les lettres ont toutes la même épaisseur de la ligne et il n'y a pas des espèces de petites jambes, vous savez, qu'on trouve par exemple dans Times New Roman, pour citer une police qui n'est pas justement linéale, qui est avec des empattements. Donc, c'est une police vraiment qu'il choisit, qui est extrêmement épurée, hein, extrêmement simple et très, très lisible. Et s'il l'a choisie, c'est parce qu'il croit qu'elle exprime parfaitement l'esprit machiniste des temps modernes. Donc elle a vraiment cette espèce de fluidité dans le dessin qui s'apparente à ce monde de plus en plus accéléré. Donc elle doit pouvoir exprimer avec justesse la rapidité du transport londonien sous sol. Alors cet alphabet, il prend la pointe de départ dans la capitale romaine, donc ce sont des lettres capitales qu'il dessine, et il est basé sur les formes géométriques élémentaires. Donc par exemple, la lettre O est un cercle parfait. La lettre M s'inscrit dans un carré, et les petites diagonales, les petites traverses, se rejoignent exactement au centre de ce carré. Donc c'est vraiment une écriture très, si vous voulez, géométrisée, épurée, tout à fait moderne. Et très avant-gardiste finalement pour son époque, parce qu'on est seulement à 1915-1916 lorsque il a choisi, et c'est une police qui sera vraiment admirée par les artistes progressistes après la Première Guerre mondiale, donc en Allemagne, enfin même en France, même si, bon d'accord, en France on va pas beaucoup faire d'éloges sur les Britanniques, mais enfin c'est vraiment une police qui est tout à fait intéressante et moderne. Donc on a cette police là, on a ce logo d'Underground, et puis à côté de ça quand même, à côté de cette belle écriture épurée, géométrisée et très lisible, nous avons cette soupe de vermicelle qui s'appelle le plan du métro. Hein. Et donc c'est là qu'un ingénieur du métro londonien, qui s'appelle donc Harry Beck, propose à la direction un schéma étonnant. Hein. C'est un diagramme de ligne géométrisée, un diagramme clair et lisible, qui en fait rappelle un petit peu le montage de circuits électriques. Donc Harry Beck, c'est absolument pas un graphiste au départ, c'est vraiment un ingénieur qui est employé par la compagnie et qui surveille le bon fonctionnement des lignes. Enfin, c'est évidemment une sont des lignes qui font appel à l'électricité, donc c'est quelqu'un qui a bien sûr connaissance des circuits. Et finalement, on se dit, cette image qu'il propose, ça ressemble quand même pas mal aux circuits électriques. Alors, c'est un diagramme qui, donc, malgré sa clarté, justement parce qu'il est clair, il n'a rien à voir avec la réalité topographique des lignes du métro. Hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment, si vous voulez, se dire « c'est pas possible, on ne peut pas continuer à représenter ces lignes telles qu'elles se présentent véritablement, parce qu'elles sont beaucoup trop tournantes, sinueuses, enfin, partant dans tous les sens, ça fait vraiment des nœuds de rencontres à certains endroits. Donc, il faut clarifier, il faut simplifier, il faut structurer, il faut géométriser. Hein. » Et il explique très exactement la conception de ce diagramme. Quand on est sous le sol, hein, donc au sous-sol en fait, hein, la seule chose qui compte, ce sont les connexions. Hein, ce ne sont pas les distances et le tracé entre deux stations. Peu importe si c'est un arrondi ou si c'est tout droit, ce qui importe, c'est que j'arrive d'une station à une autre et que là, dans cette autre station, je peux prendre la correspondance avec une autre ligne de métro. Alors, ce diagramme de Beck, qui est d'abord un peu accueilli avec un peu de scepticisme par la direction, va en fait être un succès absolument fou, parce que dès les premiers jours d'impression de petits livrets avec ce diagramme, les Londoniens vont s'en emparer et vont se l'approprier. Et donc, Beck est finalement celui qui va continuer à travailler pendant de longues années sur l'amélioration de ce plan. Alors, quand il a commencé la conception de ce diagramme, il a en fait une idée très précise. Il s'est dit, j'ai essayé d'imaginer que j'utilisais une lentille ou un miroir convexe de manière à pouvoir présenter la zone centrale de la ville à une échelle plus importante. Ceci, je me disais, donnerait la clarté nécessaire aux informations sur les correspondances. Donc, en effet, il a, de ce fait-là, aéré ce réseau très, très dense et très chaotique. Et en fait, du coup, ce diagramme donne une image déformée de la ville de Londres, puisque le centre-ville, vu qu'il est en fait conceptuellement regardé à travers une lentille convexe, ce centre-ville apparaît beaucoup plus grand que ce qu'il est, hein, de façon à ce que justement le graphiste puisse y inscrire très lisiblement les noms de toutes les stations. Et donc par conséquent, les distances entre ces stations se trouvent exagérées. Donc si vous allez un jour à Londres, vous allez vous apercevoir qu'il y a des stations qui en fait sont très proches l'une de l'autre, alors que sur le diagramme du métro, sur le plan du métro, elles apparaissent éloignées. Et le contraire est malheureusement vrai aussi. Hein, si vous vous dites, oh mais c'est pas loin, je vais à pied, je vais à pied de Clapham Nord à Clapham Common, ouais, c'est un peu loin, hein, même si ça paraît tout près, l'un de l'autre sur le papier. Donc il faut évidemment absolument pas se fier à ce diagramme si vous voulez vous balader à pied à l'air libre. Hein, il fonctionne très bien au sous-sol, il est très clair. Donc malgré le fait qu'il déforme la ville de Londres, hein, visuellement, là, pour la plupart des Londoniens, ce diagramme, ce n'est pas seulement une simplification visuelle des lignes souterraines, c'est aussi une simplification essentielle de leur ville, hein, pour s'y retrouver. Parce que bien sûr, c'est une ville tellement labyrinthique par endroits, hein, avec des petits coins perdus, enfin, étonnante. Hein. Et donc... Harry Beck, pour dessiner son diagramme, a utilisé l'alphabet donc, qui a été conçu par Edward Johnston, hein, donc cet alphabet de 1915, donc pour signaler donc, les noms des stations dans le diagramme. Alors, il a quand même arrangé un petit peu, quand c'était nécessaire, quand il n'y avait pas suffisamment de place, il comprimait un petit peu les lettres. Et puis, par la suite, donc, il a introduit aussi des lettres minuscules. Hein. Donc, aujourd'hui, le plan que vous pouvez avoir aujourd'hui à Londres, il découle toujours du plan premier de Harry Beck. D'ailleurs, c'est mentionné le plus souvent en bas. Hein. « This diagram is an evolution of the original design conceived in 1931 by Harry Beck hein, », donc il est bien identifié. Mais évidemment, il y a un petit peu d'évolution, déjà parce que, bien sûr, Harry Beck n'était pas éternel. Hein, donc le maître continue à vivre, mais le concepteur du diagramme est déjà mort. Alors, c'est aujourd'hui donc une énième version du diagramme original, et il faut dire que Beck a travaillé continuellement tout au long de sa vie, jusque dans les années 60, sur l'amélioration de son dessin, donc incluant toujours les nouvelles lignes qui étaient construites et les nouvelles stations, et essayant toujours d'apporter de plus en plus de clarté. Donc c'est vraiment un travail en détail sur l'inclinaison des lignes horizontales, sur les angles de ces lignes. Alors, juste une anecdote pour répliquer à ses collègues qui se moquaient de lui en lui disant qu'en fait, il avait simplement adapté les circuits électroniques qui lui étaient familiers pour faire ce dessin. Harry Beck s'amusa à dessiner des plans du métro londonien avec des noms déformés. Alors, ce ne sont pas des plans, évidemment, qui étaient commercialisés, heureusement. Par exemple, au lieu de Bakerloo Line, il mettait Bakelite Tube. Voilà. Donc, c'est des petites... Il a fait des petites choses comme ça, mais ça, c'est
il
évidemment...
Il avait de l'humour, quand même.
Voilà, il avait de l'humour. C'est plus dans les archives que, heureusement, ce que cherchait Bakelite Tube. À Londres, ça pouvait être difficile. En même temps, ces lignes sont assez comme ça épaisses et très régulières. Et effectivement, il y a cette notion un peu du tube ou du réseau en fait, qui reprend justement le surnom en fait que les Londoniens donnent au métro, le tube. Hein, le tube. Alors, finalement, on peut dire que malgré le fait que c'est vraiment un dessin que tout le monde peut posséder gratuitement, parce qu'il est distribué évidemment à tous ceux qui achètent un ticket, c'est une invention fascinante, ce diagramme. C'est vraiment une icône du design graphique. Et la meilleure preuve de son efficacité et de son intelligence est le fait qu'il a ensuite inspiré de nombreux autres graphistes dans la conception des diagrammes similaires partout dans le monde. Et alors on peut par exemple prendre un diagramme qui est très proche, c'est celui de New York, métro new-yorkais. Autre influence que ce diagramme a sans doute exercé, qu'il faudrait encore clarifier, c'est l'influence qu'il a pu avoir sur les jeunes architectes londoniens dans les années 60, qui ont publié une revue qui s'appelait Archigram. Hein, donc parmi ces architectes, on peut citer par exemple Peter Cook, qui était vraiment un architecte enseignant très influent. Et donc, à l'époque, ces jeunes architectes imaginaient la nouvelle ville qui serait une ville branchée, hein, plug-in city, ou encore qui fonctionnerait grâce au circuit électrique et qui, en fait, dans leur dessin, ils reprenaient différents schémas qui ressemblent complètement à ce diagramme de Harry Beck. Donc, finalement, ils imaginent une ville dont la première ossature est finalement leur ville souterraine, diagrammatisée, on pourrait dire, si ce mot existe.
Mon Dieu.
Pas encore. Il existe, ça y est, je l'ai prononcé.
Ça y est.
Donc, diagrammatisée par Harry Beck. Et enfin, après, l'influence, si vous voulez, dans l'architecture, elle va dans le, on va dans le high-tech, on va dans le sens de Renzo Piano, par exemple, de Rogers, et on peut regarder évidemment aussi l'escalier de Beaubourg, hein, redressant finalement le plan du métro londonien, le mettant à la verticale, et non pas l'horizontale.
Les auriteurs ne peuvent pas le voir, mais c'est vrai qu'effectivement, oui.
Mais enfin, c'est facile, hein, le métro londonien, vous tapez sur Google, comme dit ma petite fille de 4 ans, Google. Sur Google, vous allez sûrement trouver facilement le diagramme du métro londonien.
Voilà. Merci Sonia, c'est très intéressant. En fait, je crois que je vais aller dans mes archives ce soir parce que j'ai un plan du métro londonien.
Peut-être le collecteur.
J'allais regarder parce que je connaissais pas le truc. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes ensemble.